Oh oui, le midi, c'est ton émission du midi. C'est On en jase sur Boulevard 102.1. Précisément, midi, une minute à la météo aujourd'hui. Allons faire de la pluie. On tombe pas encore. Il y a des possibilités d'averse à 40%. C'est 2 degrés. Ça va peut-être être de la pluie ou de la neige. Demain, possibilité d'averse de neige à 0 degré et moins 1 possibilité d'averse de neige vendredi. Fait que préparez-vous. On va avoir notre Noël blanc, les amis.
Ah, je suis contente.
Puis moi, je vais en faire mettre mes pneus d'hiver tantôt à 2h30.
Et il est temps, hein?
Oui, oui. Puis ouais, le pire, c'est que j'avais pas l'impression de m'y prendre trop en retard. J'avais appelé quelque part mi-octobre, mais bingo, je me suis donné 26.
C'est la neige
26,
qui est trop de bonheur, moi je suis d'accord avec ça.
C'est ça, je pensais pas me faire prendre de cette façon-là. Antonine Iaccarini, ça va bien?
Oui.
Cool, Pascal CV, tout va bien?
Très bien.
Excellent, j'invite les gens à venir nous voir sur twitch.tv. /BLVD/FM. Également, suivez-nous avec l'application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store. Et on est disponible via la web radio sur BLVD.FM. Bon, là, je me suis levé un matin et je me suis dit, de quoi qu'on va jaser? Alors, on en jase le midi. Là, j'ai pensé, j'ai dit, ah, on pourrait peut-être parler des Nordiques, mais non, ils sont plus là. On parle des Expos de Montréal, ils sont plus là. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Qu'est-ce qui est dans l'actualité? Pablo Rodriguez!
Ça fait changement.
C'est ça. Ah! Moi, je suis fatiguée pour lui. Je sais pas comment vous sentez, là.
Ben oui, nous aussi, oui. Là, honnêtement, on le voit se dépatouiller dans ses sables mouvants. Puis sérieusement, si vous êtes tanné d'en entendre parler, je veux juste vous dire que c'est loin d'être terminé, là, ça. Là.
Exactement. Alors, on fait jouer immédiatement le thème du...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Et Anto, je m'excuse, mais je vais te prendre au dépourvu dès le départ. J'adore impliquer nos auditeurs dans l'émission. Sam qui écrit « Je suis curieux d'entendre l'opinion d'Antonine sur la corroboration de la manipulation immigratoire du référendum de 1995. »
Il provoque, là. Il met 25 cents dans souverainiste.
Exactement, c'est ça que je trouve. Parce qu'hier, on a eu une super discussion avec Rémi Villemur, hein, Pascal. Puis là, Rémi, il disait hey, « Je me demande si on devrait donner le droit de vote aux gens que ça fait pas 5 ans qu'ils sont citoyens permanents. Oh, » j'avais des bémols parce que je me dis à un moment donné, moi, je pense que c'est peut-être à nous de mieux les former, d'avoir une meilleure éducation sur l'histoire, de convaincre plus de francophones. J'ai de la misère avec ça, restreindre les libertés. Mais d'un autre côté, là, je vais prendre ce langage-là. T'as une méchante crosse pareille de Jean Chrétien.
Ben oui, non, mais de toute façon, je veux dire, c'est pas un hasard, là. Puis, tu sais, quand on revisite les propos de Jacques Parizeau après le référendum, tu sais, c'était des propos qui ont été hautement dénoncés, mais ça venait de quelque part, hein? C'est tout ouais. Ça, là, c'était, il y avait une base réelle.
Ben, 400% d'augmentation. Ben oui. 11 000 citoyens en octobre 95 qui ont eu leur citoyenneté permanente.
Non, puis je veux quand même aussi préciser que ça, là, ce genre de crosse-là, là, parce que tu as utilisé le mot, je me le permets
ouais,
aussi.
Vas-y.
C'est aussi responsable de polariser dans notre société puis de faire en sorte qu'il y a eu des tensions entre les mouvements nationalistes et les personnes immigrantes, malheureusement. Mm-hmm. Parce que ça vient mettre une étiquette. Tu sais, souvent, on va pointer du doigt les nationalistes puis leur manque d'inclusivité. Mais moi, je trouve que quand les fédéralistes font des choses comme ça et instrumentalisent l'immigration à des fins stratégiques pour eux, ben ça aussi, ça vient nuire aux personnes immigrantes et à l'image qu'on en a. Il y a le PQ aujourd'hui qui dépose une motion. C'est Alex Boissonneau qui dépose une motion qui va comme suit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale prenne acte des aveux de l'ancien ministre canadien Sergio Marquis, confirmant que le premier ministre Jean Chrétien a exigé l'accélération du processus d'octroi du droit de vote aux néo-canadiens en vue du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec et qu'elle condamne l'opération citoyenneté organisée par le gouvernement du Canada sur l'ordre du premier ministre Jean Chrétien. Normalement, les libéraux provinciaux, là, le PLQ devrait être plutôt mal à l'aise avec un libellé comme celui-là. Ça va être à suivre.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
Mauvais choix de mots. T'sais, il aurait dû dire « et les coups bas du gouvernement fédéral et du camp du non ». Plutôt que de personnaliser la chose puis
de personnaliser les votes ethniques. T'sais. Non, c'est ça, les votes ethniques.
T'sais, c'est le fun pour les personnes issues de l'immigration ou descendants d'immigrants qui étaient dans la salle et qui avaient voté oui, qui avaient milité pour le oui. Tu reçois ça comme une vraie claque d'en face.
Christian nous dit ça ressemble à un coup d'État soft. T'en penses quoi?
Ben, c'est, je veux dire, ce sont des manœuvres malhonnêtes.
Tu viens t'allumer, là.
Non, non, mais je vais pas nier.
T'es au tailleur, t'as grimacé, Rémi Villemur, autant l'Antonine, je suis rendu au ciel!
Non, mais, tu sais, vous avez sûrement déjà entendu ça, là, de la part de vieux péquistes. On a toujours l'air de roter du vieux sûr, puis tout ça, mais le référendum volé. Là, Pascal, elle vient d'être écœurée par mon expression. Mais je fais une parenthèse, d'ailleurs, parce que les gens ne savent pas à la maison, mais le studio de radio avec Pascal CV, c'est en odorama, en continuel. Pas elle, mais c'est lunch. Parce que,
ouais.
Parce que c'est le midi, et Pascal lunch en studio.
Oui, et tu sais qu'au début, je dînais plus à 2h. Maintenant, je dîne à 11h parce que Pascal me donnait
elle
trop faim.
Elle mange d'en face, fait que là, c'est ça.
Là, ça sent la belle clémentine de novembre.
Là, ça sent la clémentine aujourd'hui, mais des fois, c'est plus restant. Le restant de fondu.
Oui.
Était mon préféré de la saison à date.
Ouais, puis quand elle se prépare pour le Kilimanjaro aussi, elle avait toujours un petit poulet. J'adore le poulet.
Je fais de l'hypoglycémie, puis quand je mange pas, je crache.
Hey, c'est loin d'être une critique.
Mais vous pourrez faire votre choix, OK, la prochaine fois.
Les agrumes, c'est oui.
C'est
oui.
Non.
C'est okay. Loin d'être une critique en français. Là,
c'est
sûr
qu'il y en a la fondue, c'était une critique, je te le dis tout de suite.
Oh, ouais.
Ben là,
tu t'assumes critique de fondue.
Je pense que mes cheveux sentaient les oignons quand je suis sortie d'ici. Voyons. J'ai obligé d'aller me laver les cheveux.
Désolée. Okay. Qu'est-ce qui est le pire, la fondue à Pascal ou le cross-voyage de Jacques
Chrétien? Le référendum volé. Il n'y a rien de pire que le référendum volé. Non, mais vous avez déjà entendu ça, là, des vieux péquistes là, parler de référendum volé. Puis ça fait vraiment... Tu sais, en fait, quand tu perds puis que tu te plains contre les règles puis que tu dis, Donald Trump, « It was rigged », c'est sûr que tu passes toujours par quelqu'un d'amer et tout ça. Mais je veux dire, ce sont des faits avérés. Mm-hmm. Il y a eu des tactiques pour noyer le vote du oui. Et après ça, je juste vous rappeler aussi qu'il y a eu le scandale des commandites qui a découlé tout ça. Puis on a appris aussi toutes sortes de manœuvres pas correctes. Donc, tout ça, ce sont juste des faits.
En effet. Et voilà. 418-971-1021 pour réagir. Claude André dit Jacques Parizeau doit sourire tristement dans son tombeau. Mm. En effet, ça me fait faire un lien avec Pablo Rodriguez, notre prochain sujet. Mais parce que
peut-tu appliquer une parenthèse d'auditeur qui commente ce dont tu viens de jaser, mm-hmm. Antonine, en disant comment il a fait pour garder le secret aussi longtemps, selon
c'est
toi?
Vrai.
Comment est-ce qu'on a pu être au courant de ça et que ça implique tellement de monde et des choses aussi grandes que ça, mais que ça sorte que maintenant?
Bien, on était au courant. C'est juste que là, c'est une confirmation supplémentaire, okay. Mais tu sais, c'était pas un gros secret, là. Je veux vous dire, bon. C'est un secret de polichinelle. C'est juste que là, ben, évidemment, quand on a quelqu'un de première main qui le dit, c'est différent. Moi, je trouve aussi, en conclusion là-dessus, que ça vient aussi confirmer que... Parce que des fois, les fédéralistes voudraient qu'on n'en parle plus. Ah, hein. Oh, c'est réglé! C'est réglé, ça, ce problème-là.
C'est derrière.
Je vous annonce que c'est pas réglé.
Ben non.
Puis je vous annonce qu'un référendum qui est passé de manière très, très serrée pour le camp du non. Quand on voit en plus les manœuvres qui ont été faites, c'est certain qu'on a une impression de business pas réglé. Là.
Oui, puis je vous annonce qu'avec un dizaine de Justin Trudeau sur le multiculturalisme et plusieurs politiques qui emmenaient des déficits monstres, Mark Carney qui continue dans ce sens-là, ben ça n'en convainc de dire hey, ouais, sais-tu quoi, peut-être qu'on serait mieux d'être le Québec que le Canada. Donc c'est loin d'être terminé, en effet. Pablo Rodriguez, qui normalement serait le capitaine Canada du Québec.
Chef du camp du Nord.
Chef du camp du Nord.
Porte-étendard du drapeau que tu aimes tant. Veux-tu mettre ta main sur le cœur?
Non, là, je ne le mets pas. Je ne le mets pas. J'ai même.
C'est ta gang, ça, c'est toi? C'est tes fédéralistes?
Hier, quand j'ai écouté la première paire des Oilers d'Edmonton avec mon Edouard était encore debout comme ça pour l'hymne national canadien. Et moi, j'étais assis à manger des peanuts.
Ah ouais?
Ouais, je me suis rebellé.
Là, t'es un peu incohérent. Là.
Hier, je me suis rebellé contre mon drapeau canadien. Ça m'a fait mal.
T'as eu mal.
Ouais, ça m'a fait mal. Ça a fait mal à mon Canada hier, cette information-là. C'est des faits. Alors, j'ai pas le choix de m'asseoir avec ma conscience pendant l'hymne national.
Ouais.
Bon, c'est sûr que pendant les Jeux olympiques, là, je vais redevenir capitaine Canada un peu. Là.
J'en doute pas.
Mais
d'après moi, c'est temporaire. Là,
mais c'est ça, on verra. C'est peut-être si on achète un 20 jours, on verra ce qu'il en sera. Mais tout ça pour dire que Pablo, lui, il a dit « Ben là, on s'est dû passer, ça, comme
c'est
les fédéralistes.
C'est
dû passer. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. » Mais là, Pablo, à matin...
Non, il a dit qu'il n'était pas au courant.
Ouais, c'est ça.
Il n'a jamais été mis au courant de ça.
Il n'a pas été mis au courant de ça, mais il n'avait pas été mis au courant non plus qu'il y avait un de ses amis des fédéraux, Parti libéral, qui a ramassé de l'argent. Il n'était pas au courant qu'il y avait eu des échanges textos. Il n'était pas au courant du branle-bas de combat entre Marois Risquet et Geneviève Vint. Pablo, sais-tu quelque chose?
Ouais, c'est vraiment l'impression qui ressort de tout ça. Là, ce matin, il y avait des éléments nouveaux. Je vous dis nouveaux, OK? c'est vraiment des petites pièces de puzzle.
Mm-hmm.
On est en train de collectionner une à une de très petites... T'sais, j'ai l'impression qu'on a un puzzle 2000 morceaux puis qu'on a 15 morceaux. Mm.
C'est vrai!
On a un portrait qui est très, très sommaire. Mais ce matin, dans la presse, on nous expliquait... Bon, en fait, qu'est-ce qu'on a appris sous la plume de Tommy Chouinard? Ben, il y a d'autres captures d'écran qui ont circulé. J'ai eu accès à ces captures d'écran. Je pourrais vous les lire. Mais dans lesquelles... On parle d'un certain Fessal. Donc, le message va comme suit. Hello, la personne répond hello. Oui, le tout is done. Ça, c'était des mots qu'on avait entendus dans l'article du Journal de Montréal. The money also? Non, il faut rencontrer Fessal pour l'argent des membres et les dons. Toi, comment tu vas avec une grosse semaine? Il parle d'autre chose. Donc, Fessal, c'est en référence au député de Laval, mais le député fédéral. Libéral de Laval. Tout ça rime. Fessal, député fédéral libéral de Laval. Fessal El-Khoury, qui aurait participé à cette histoire de brownies. Et là, je le dis vraiment au conditionnel. Mm-hmm. Encore une fois, ces captures d'écran-là, c'est impossible pour moi. Et pour l'instant, on ne sait pas comment le journal va réussir à authentifier ça. Mais de vous affirmer au-delà de tout doute que ce n'est pas fabriqué. Mais je veux quand même dire, ça veut dire que ce député-là, qui s'impliquait aussi dans la campagne de Pablo Rodriguez, il ne peut pas le nier, puisque j'ai vu des vidéos de Pablo Rodriguez et on le voit.
Oui, exactement. Puis, il avait justement son brevet pour ramasser de l'argent pour Pablo Rodriguez.
Pour ramasser des dons pour un parti politique, tu dois signer un document, ça s'appelle un certificat de sollicitation. Donc, tout ça, le Parti libéral a ça entre les mains. Ça devrait faire partie de l'enquête, d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette enquête-là, je vous le dis aussi en parenthèse, on attend les détails, hein, parce qu'on a dit qu'on allait donner à une firme externe au Parti libéral le mandat de mener une enquête sur ces éléments-là, sur les brownies, et on attend toujours les détails. Je trouve ça extrêmement long, je dois vous dire.
Bien, d'ailleurs, on écoute Pablo Rodriguez à cet effet-là ce matin lorsqu'il a été questionné.
Là, aujourd'hui, il y a ce qui sort aujourd'hui. Ça, pour vous, ça allume aucun doute dans votre tête. Vous ne dites pas il y a matière à faire enquête, je ne peux pas l'enquête interne, mais de votre côté, de faire une enquête pour vérifier ce qui est arrivé, parce que là, présentement, ça paraît mal.
Le comité que j'ai créé, là, c'est-à-dire le mandat que je donne au juge Fournier, c'est exactement pour ça. Maintenant, non, mais moi, je ne me substitue pas... Comment? Je me substitue pas à une enquête que je mets sur pied pour faire la lumière. Là, qui suis-je pour aller devancer le juge et aller rencontrer tout le monde à l'avance? Je fais une enquête ou je ne la fais pas. Je fais confiance au mécanisme qui va être très transparent, que je mets sur pied. Il ira rencontrer les gens qu'il considère important de rencontrer, mais encore une fois, si quelqu'un sait quelque chose, à ce moment-là, qu'il aille le rencontrer. Si Mme Rizky dit qu'elle a eu une conversation, je ne sais pas si elle l'a dit ou non, mais si c'est le cas, qu'elle parle à l'enquête aussi. Moi, je m'attends à la collaboration de tous et chacun. J'ai tout à gagner, là, et on a tout à gagner de la transparence. C'est pour ça que je suis ici à chaque matin.
J'ai l'impression d'entendre François Legault, après le rapport de la vérificatrice générale, on nous a menti, puis une semaine après, dire hey, « ben non, je peux rien faire. Il va avoir la commission galant. » OK, je vais reprendre le commande à Pablo Rodriguez. Commande, Pablo, t'es le chef.
Ben, puis ça, c'est vrai que c'est une stratégie en politique. Quand tu déclenches une enquête, que ce soit une enquête administrative, une enquête interne, une enquête indépendante, une enquête, une commission d'enquête, peu importe la forme que ça prend, ça fait baisser la chaleur politique temporairement. Parce qu'après, si on se rappelle de la commission Saclic, je m'excuse, mais c'était pas débarrassé de la chaleur.
La CAQ a passé dans le tordeur.
Ils ont passé dans le tordeur. Donc, puis ça va être la même chose avec les libéraux. Parce que quand on gratte, on trouve, OK?
Oui.
C'est, honnêtement, là...
Puis là, les journalistes d'enquête sont en train de gratter. Fait que ça va trouver, là.
À Laval, là... C'est louche, OK? Je vais vous le dire, là, j'aime pas les théories du complot, j'aime ça qu'on soit sur du solide, mais là, honnêtement, il y a beaucoup de fumée. Je reviens sur le député Fessal El-Khoury. Il y a eu des doutes aussi quand, dans son investiture, il y a des gens qui ont témoigné qu'ils trouvaient qu'il y avait eu des irrégularités. C'est la même chose pour Sona Lacoyanne Olivier dans son investiture, dans sa circonscription de Laval aussi. Donc, moi, je pense que s'il y a des enquêtes, on verra, là. Mais, tu sais, généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Mm-hmm. Maintenant, je suis d'accord avec Pablo sur une affaire.
Vas-y.
Tout le monde a avantage à ce qu'on fasse la lumière, effectivement.
Ben oui.
Lui, il a un avantage politique, c'est sûr. Parce qu'en ce moment, il se défend contre des fantômes puis des affaires qui flottent dans les airs. C'est impossible. Là. C'est extrêmement compliqué pour lui. Mais on veut savoir ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Là, il y a quelques jours, il y a des militants libéraux anonymes qui lançaient un appel pour un vote de confiance. Honnêtement, c'est vraiment pas le temps de faire un vote de confiance. C'est le temps de ramasser les pièces du puzzle. S'il y a quelque chose Évidemment, le chef est imputable, puis on verra qu'est-ce que ça dépend de la nature des informations. Et s'il n'y a rien, ben on va passer à autre chose. Mais tu sais, juste sur Sona Lakoyan, Olivier, tu sais, elle était en point de presse vendredi avec son chef et avec tous les autres députés qui étaient présents, puis elle disait « j'ai rien à me reprocher », elle attaquait même les journalistes. Si elle a quelque chose à se reprocher, ces images-là vont mal vieillir. Mais Pablo Rodriguez, en attendant qu'il y ait des preuves, il ne peut pas l'exclure. Il ne peut pas exclure sa députée. Mais le jour où quelqu'un lui dit « c'est vraiment elle dans les textos » puis qu'il y a une démonstration qui est faite ou qu'il y a une enquête du DGE qui démontre une irrégularité et que ça pointe vers elle, bien là, il peut l'exclure. Mais pour l'instant, il peut absolument rien faire. Il est pogné là-dedans.
Je reviens sur le leadership de Pablo Rodriguez et je te fais écouter un autre extrait de son point de presse de ce matin à l'Assemblée nationale où on parle justement de Faisal El Khoury.
Qui ramassait des sous, comme beaucoup de monde. Vous savez, j'ai rencontré des gens, j'ai été ministre de la Culture, j'ai rencontré des gens à travers ça qui m'ont donné un coup de pouce par la suite. J'ai été ministre des Transports, il y a des gens qui m'ont donné un coup de pouce par la suite. J'ai rencontré des gens en politique qui m'ont donné aussi un coup de pouce par la suite. Donc, ça fait partie de
ça. Important, Pablo, il est important.
Non, mon entourage l'a appelé ce matin, puis il lui a dit, ben écoute, il y a cet article-là. Ben, il dit, non, mais je n'étais pas dans l'organisation. Mais oui, tu étais dans l'organisation, puisque tu avais un certificat de sollicitation.
Ah!
Ah, il dit, ben moi, je pensais que c'est pas, si je ramassais des sous, je n'étais pas dans l'organisation. J'ai dit...
C'est donc, ça, je fais une pause. OK, je fais une pause, là.
Hey!
T'es le chef. C'est toi qu'il faut qu'il gère la galère. Ça sort des médias à matin, 5h, à la presse. Là, je sais que Pablo Rodriguez, tout le monde en parle, il a dit qu'il était là à 6h30, puis son équipe était là avant, mais il peut se lever à 5h, OK? Et là, c'est pas toi qui prends le téléphone pour appeler, pour dire, « Hey, là, il se passe quoi? Dis-moi donc. » Tu fais appeler l'entourage. Puis là, après ça, « Ah, oh, mais non, mais là, tu sais, hein? » Je savais pas qu'il était dans l'organisation. Voyons donc, le gars, 70 ans, il est au PLC depuis que le PLC existe.
Oui, puis encore une fois, j'ai vu une vidéo à matin. À matin.
Mais c'est ça.
Où est-ce qu'on le voit, la vidéo de campagne, là, puis il sert dans leurs bras. Là.
Fait pourquoi alors mentir? Pourquoi?
Mais c'est pas Pablo que je traitais de menteur. En passant, c'était Faisal El Khoury qui dit « Moi, je n'étais pas dans l'organisation. » Hey, je m'excuse, là, mais moi, les gens qui mentent, même si c'est sur une niaiserie,
t'es menteur.
Okay. Pour moi, tu n'as plus de crédibilité.
Et là, ben,
ça
laisse le doute sur ce que tu disais avec les investisseurs qui ont été problématiques,
hey,
autant pour lui que pour la députée libérale.
C'est louche, là, ouais. Tout ça. Là. Il y a vraiment des éléments inquiétants pour Pablo. Puis, tu sais, après ça, oui, ça en dit beaucoup sur son leadership parce que c'est pas nécessairement lui qui a créé la crise personnellement, mais après ça, c'est lui qui doit la gérer, soit qu'il savait puis qu'il nous a menti, ou qui n'a pas dit la vérité, ou soit qu'il ne savait rien, puis c'est un problème aussi quand tu es leader d'un parti, puis c'est un problème de relation avec ton entourage.
Soit que tu es menteur ou incompétent.
Choisis ton option, il n'y en a pas vraiment de...
Mais il n'y a pas d'option positive.
Puis là, la suite des choses pour lui, parce qu'on est en année électorale bientôt, après les fêtes, il vient d'être élu. Le Parti libéral n'a pas terminé de recoller les pots cassés d'une course à la chefferie, qui c'est toujours un peu déchirant pour un parti politique. Il a perdu sa meilleure joueuse, qui demeure populaire. Les gens veulent croire que Marwariski avait raison. Là. Mm-hmm. Ça continue. On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Si elle a vraiment quelque chose de grave puis qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, tout va retomber sur Pablo Rodriguez. Même si elle a certains torts, ça va retomber sur Pablo Rodriguez parce que, comme on le dit, il va avoir été ignorant, il a mal géré. Et il va avoir 1 million de rebondissements dans les prochaines semaines. Parce que là, encore une fois, on a des textos qui circulent, des choses comme ça. Mais il y a aussi l'annonce de l'enquête. Il va avoir la conclusion de l'enquête. Il va avoir le DGE qui va arriver avec des recommandations. Il y a peut-être la commissaire à l'éthique qui va faire un avis sur leur manière de gérer leur budget. Il y a peut-être d'autres députés qui vont finalement perdre confiance en Pablo. Tu sais, les possibilités de tuiles sont infinis pour Pablo Rodriguez.
C'est une catastrophe d'année électorale pour le PLQ.
Et puis, il y a une poursuite en plus. Il y a Geneviève qui poursuit Marwariski. Donc, il y a plein d'affaires qui vont sortir de ça. En année électorale, c'est une catastrophe. Maintenant, est-ce que... On regarde les options. Là. Toi, t'es un apparatchik libéral, un penseur libéral, là, un stratège. Là. Puis là, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse de Pablo? Hey, tu peux pas t'en débarrasser maintenant. C'est rien. Il y a peut-être rien. Donc là, ça va flotter pendant un bon bout de temps. Puis là, plus on avance, plus on est proche de l'élection, changer de chef à quelques mois d'une élection, c'est épouvantable. Tu sais, pour vrai, là, en politique, 6 mois, c'est une éternité.
Ouais.
Mais en même temps, ça passe vite jusqu'à la campagne électorale quand tu regardes.
Ben oui. Quand le calendrier électoral part. Là. Putain, j'ai un exemple en tête parce qu'on pense souvent à l'exemple de Mark Carney qui a remplacé Justin Trudeau. Puis
ben
là,
oui.
Mais l'exemple que j'ai en tête, moi, c'est Kamala Harris qui remplace Joe Biden. Puis Donald Trump rentre comme, train aux États-Unis.
C'est pas magique, là, changer de chef à dernière minute. Pas du tout, du tout. Et aussi, ben c'est dur quand tout le monde est un peu divisé de trouver quelqu'un qui rassemble rapidement. Honnêtement, il est dans de beaux draps, notre ami Pablo Rodriguez.
Isabelle qui écrit, c'est insultant pour les contribuables. Et moi, je vais te dire que ça, c'était insultant pour les gens qui sont syndiqués par la FTQ.
Alors là, ce qui est assez pathétique également, c'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. Et il y a deux choses, Monsieur le Président. C'est soit qu'il est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, il n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales.
Ouais.
Hey, ça aurait pu s'appliquer aussi à Pablo Rodriguez. Il est innocent ou il fait l'innocent.
Ouais, en effet. Mais Magali Picard, là.
Ouais.
Là, la guerre sociale. Là.
La guerre.
La guerre sociale, parce que je veux savoir ce que tu fais avec l'argent des cotisations syndicales. Puis la guerre sociale, parce que quand la STM va repartir sur une lubie, on va leur dire non, il y a du service essentiel.
Guerre sociale, à ton avis? Qu'est-ce que tu imagines, mettons, quand je te dis on va faire une guerre sociale?
Moi, c'est les carrés rouges.
Ah oui.
Moi, c'est ça que j'ai en tête. Une guerre sociale, c'est les carrés rouges. Les carrés rouges étaient partis partout. Ils faisaient des manifs, ils faisaient du cassage.
OK, c'est le cassage. C'est le coltaillage avec la police.
Tu sais, je vais te donner un exemple américain. Ouais. C'est le Black Lives Matter.
Ouais, OK. Ou qu'est-ce qu'il y avait eu à Wall Street, là. J'ai un blanc de mémoire. Là.
Il y a le Capitole là, qui était assez intense.
Ouais, ça, c'était. Ouais, ça, je pense. C'est
pour ça que j'étais comme.
Mais
regarde, toi, ta guerre.
J'avoue qu'on était à guerre avec le Capitole.
C'est ça. Bon, guerre sociale, ouais, effectivement. Donc, c'est des manifestations, mais qui ne sont pas liées, parce que, tu sais, évidemment, les syndicats, d'habitude, ils manifestent quand ils sont en négociation pour leur condition de travail. Là, ils manifesteraient, ils feraient des coups d'éclat pour simplement dire leur désaccord face à ce projet de loi-là puis face au gouvernement de manière générale. C'est sûr que, bon, les syndicats ont de l'argent. Ils ont fait des campagnes de pub contre des gouvernements régulièrement. Ils agacent beaucoup les gouvernements. T'sais, ça fait plusieurs années que, ben, j'ai envie de dire, ils sont un peu mélangés aussi sur qui appuyer. Hein, parce qu'il y a une certaine époque de bipartisme, c'était clair, c'est qui t'appuyait.
Ouais.
Quand c'est les conservateurs contre les libéraux, ils appuyaient les libéraux. Quand c'était les libéraux contre le PQ, ils appuyaient le PQ. Quand c'était... Mais là, maintenant qu'on a plein de partis politiques...
Ben là, c'est parce qu'ils peuvent appuyer Québec solidaire. Parce que Québec solidaire a été solidaire avec eux dans la grève à l'Estienne.
Les élites des centres syndicales sont très proches de Québec solidaire, mais leurs travailleurs, là, en 2022, ils ont-tu voté pour Québec solidaire?
Non,
ils ont voté pour la CAQ.
Ils ne voteront pas pour Québec solidaire en 2026 non plus. Là.
Ben, en tout cas, ça regarde mal, mais on ne sait jamais. cela dit, on sent que les tensions sont vraiment à leur plus haut niveau entre le gouvernement et les syndicats. Et c'est vrai que Jean Boulay est ministre du Travail depuis 7 ans. Il avait relativement une bonne relation avec tout le monde. C'est quelqu'un qui entretient bien. Là, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon politique les parties prenantes. Là. Quand tu es ministre, tu as des réseaux, tu as des groupes que tu rencontres plus. Il était très juste avec ce qu'on appelle le patronat, donc Chambre de commerce, Fédération de la Chambre de commerce, des entreprises indépendantes, etc. Et de l'autre côté, les syndicats.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu de grande vague importante là, de contestation.
Ben, c'était plus dans le cadre de négociations des conventions collectives. Puis ça, c'est pas le ministre du Travail qui gère ça nécessairement. Mais là, on s'en prend au régime syndical. Vraiment, on s'attaque à ça. C'est une mesure qui est appuyée par pas mal de monde. Parce que, honnêtement, quand tu regardes ça, pourquoi être contre la transparence? Et je trouve que le projet de loi, c'est de manière bien personnelle, on peut avoir chacune nos opinions là-dessus, mais je trouve qu'il est quand même assez bien équilibré. Il y a eu un autre projet de loi de Jean Boulay qui touchait au droit de grève.
Ouais.
C'était sur les services essentiels. Et je trouvais que le projet de loi aussi était
très équilibré.
Bien équilibré.
Moi, j'ai écouté les deux conférences de presse, puis honnêtement, je sortais pas de là en me disant... Quand les syndicats mangent une volaille, ni en me disant hey, il va pas trop loin. Je trouvais que l'équilibre était le bon.
Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Puis, à travers tout ça, ben c'est sûr qu'il y a de la politique et les centrales syndicales hier l'ont dénoncé parce qu'on sait que c'est populaire. Là, on essaie d'aller chercher des points. On voit très clair là, dans le jeu de la CAQ quand même, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort sur le fond. Peut-être que sur la forme, c'est insultant pour les syndicats de se faire casser du sucre sur le dos. Je le comprends. Puis aussi, un autre élément qui est dénoncé par exemple, Magali Picard de la FTQ, c'est qu'elle dit on fait des projets de loi sur des anecdotes. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont choqué les gens dans l'usage.
Du bail, les whisky à 55 piastres. bracelets, pick-up changeur chaque année.
Donc ça vient chercher les gens. Mais sur le fond des choses, quand tu regardes qu'est-ce qui est fait avec les cotisations syndicales, moi, j'ai jamais été syndiquée de ma vie, okay, pour être honnête.
Moi non plus.
Mais si je l'étais, je voudrais qu'on me demande, effectivement, j'aimerais ça être consultée puis qu'on me dise qu'est-ce qu'on va faire politiquement aussi avec cet argent-là.
Ben oui.
Parce que oui, il y a des budgets normaux, mais à un moment donné, une campagne de pub contre le gouvernement, attends, on va peut-être consulter sur si tu as un bon usage de notre argent. Si on s'en va poursuivre le gouvernement pour contester une loi, par exemple, on peut-tu en discuter 5 minutes? Pour moi, ça me semble juste la logique. Mais hier, Magali Picard a refusé même de serrer la main.
Oui, ça n'a pas de sens. On est dans un système démocratique. Ouais. Là, elle a bien beau dire qu'on est rendu à la droite extrême, là, t'sais, ça, c'est pas vrai. Là.
Non, mais c'est important, je pense que dans des métiers comme ça, tu es la prestance et le respect que le métier se doit.
La fonction.
Oh, oui,
à un moment donné, c'est sûr que tu vas être en désaccord avec des gens et tout ça. Il y a quand même beaucoup de commentaires, puis j'ai émis un petit commentaire du genre dans l'émission à Max ce matin.
Ah,
il y avait énormément d'orphelins politiques. Hein. Au provincial aussi, ça se voyait depuis quelques années. Ça risque d'agrandir cette masse-là d'orphelins politiques en voyant peut-être des gens vouloir changer de parti ou essayer de taquiner la truite là, dans d'autres partis politiques pour essayer de changer de place, ce qui se passe au niveau des libéraux. Est-ce qu'on pourrait avoir un grand courant d'orphelins politiques aux prochaines élections?
Oui, là, tu parles des transfuges puis des crises dans les partis.
Exact.
Dans le fond, c'est drôle parce que ça fait des années qu'on dit que l'électorat est plus volatile qu'il l'était. Tu sais, je vous le disais, là, il y a quelques années, il y avait deux partis. C'était pas compliqué. C'était ça. Puis les gens ils étaient rouges ou ils étaient bleus. Là, en gros, là, si je vous résume l'histoire de la politique du Québec, c'est pas mal ça. Puis depuis les dernières années, bien, une multiplication de partis politiques, d'options. Il y a aussi le fait que les gens font, je pense, moins de compromis. C'est-à-dire, tu sais, pour appuyer un parti, il y a toujours des choses qui vont te déplaire. Et on a vu, notamment chez les jeunes, un plus grand intérêt pour s'impliquer dans des groupes d'intérêts de pression. Tu sais, par exemple, moi, je suis environnementaliste, fait que là, je vais m'impliquer avec Équiterre, ça fait de même. Dans lesquels tu as moins de compromis à faire, parce que c'est plus précis comme cause. Mais quand tu es en politique, il faut que tu avales des couleurs. Fait que ça, là, c'est tout un grand phénomène social duquel je pourrais vous parler pendant des heures. Mais là, en plus, on a des députés qui sont volatiles en ce moment. Puis, c'est vrai que, moi, je pense que ça peut effectivement influencer l'électorat. Ça peut contribuer aussi à mélanger le monde. Parce que, tu sais, nous, on suit la politique à tous les jours, mais il y a pas mal de gens qui regardent ça. Puis, tu sais, ils vont regarder les débats des chefs, vont suivre plus aux élections, ils vont voir les grosses affaires, mais ils vont pas suivre au quotidien. Crime, mais je veux dire, si tu ne sais pas ça à tous les jours, là, tu sais plus quel député est dans quel parti. C'est pas compliqué. Il y a vraiment de quoi être extrêmement mélangé. Puis, ça alimente un peu le cynisme quand même. Les députés qui ont changé de parti ou qui sont devenus indépendants.
T'es même Pablo Rodriguez, ça ne sait plus quel député dans quel parti. Il pense que Fassal El Khoury est au PLQ, mais il est au PLC.
C'est vrai que c'est mêlant.
Il ne sait même plus, pauvre Pablo.
Ça, c'est un bon point, Jeff, en passant, à quel point les libéraux provinciaux n'ont pas envie de devenir une succursale.
Et ça, là, ça doit écorcher plusieurs. Oui. Marc Tanguay nous le disait à plusieurs reprises ici en Londres. Non,
mais c'était
on
une
est
crainte
pas...
hein, d'avoir Pablo Rodriguez comme chef, de dire on va tout devenir le PLC, surtout qu'à l'époque, Justin Trudeau était très impopulaire. Ouais. Bon, les choses ont changé un peu pour le PLC depuis, mais de devenir une succursale du PLC, c'est quelque chose que les libéraux à Québec ne voulaient pas. Et je pense que le fait d'avoir mis Geneviève Vince aussi, qui arrivait aussi du fédéral comme directrice de cabinet. Tu sais, il faut rappeler Marois Risky aussi, elle a été candidate du Parti libéral du Canada.
Oui, ça, je savais pas ça. Tu m'as appris ça aujourd'hui.
En 2015.
Yes. Hey, je veux qu'on prenne une petite minute pour parler de cet homme politique qui bat un record.
Le Bloc québécois a fait œuvre utile.
Ça, c'est en 2018.
Québec. En 28 ans, de Lucien Bouchard à Gilles Duceppe, ce grand parti a toujours défendu avec acharnement et sans compromis les intérêts, la culture et les aspirations de notre nation. Et le travail de nos députés a permis de nombreuses victoires pour le Québec. Il y a de quoi être fier. La nouvelle orientation préconisée par la chef du Bloc
Martine
québécois
subordonne
les intérêts du Québec à la promotion de l'indépendance. Or, nous sommes justement indépendantistes parce que nous sommes convaincus que c'est dans l'intérêt du Québec.
Petite anecdote historique, 2018, Luc Plamondon, député du Bloc québécois, est à la tête de d'une congrégation de 7 députés qui disent On sac notre camp du Bloc québécois. Martine Ouellet, on est plus capable. Va-t'en gérer Climat Québec. Ça va bien d'ailleurs, Climat Québec. Bon, ceci dit, Louis Plamondon.
Quand t'es tout seul dans ton parti, c'est plus facile.
Tu peux pas te chicaner. Et voilà. Louis Plamondon, bon, un record aujourd'hui à la Chambre des communes.
Écoute, alors qu'on parle de transfuges, de gens qui changent de couleur, qui lâchent leur chef, de crise, Louis Plamondon, lui, oui, il est passé à travers une petite crise.
Oui.
Ils sont devenus indépendants pendant un bout de temps, une couple de députés du Bloc. Mais un record de longévité. Moi aussi, je vais vous dire une anecdote. Ce matin, en préparant ma chronique, je voulais aller chercher des faits historiques un peu. Puis là, ben, je me suis tournée vers ChatGPT pour m'aider à gagner un peu de temps. Et j'ai demandé l'équivalent à Québec. J'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me dire c'est qui le député qui est actuel, qui est élu depuis le plus longtemps à l'Assemblée nationale?
Ça doit être François Legault?
Attends un petit peu. D'abord, je veux te dire que ChatGPT m'a vraiment sorti juste de la merde.
Okay, oh, c'était vraiment drôle.
Il était tout mélangé. Là, il me disait que c'était Simon Allaire, député caquiste de Nicolet. Il mélangeait tout ça.
Vaut mieux l'intelligence humaine.
Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai texté Pascal Bérubé, député de Matane, parce que il est passionné d'histoire politique. C'est un gars que, tu sais, c'est le poloud de la politique.
C'est lui?
Ben oui, Colin!
Ah, c'est lui!
OK, fait que je reviens sur Louis Plamondon dans un instant, mais ça m'a fait rire. À Québec, triple égalité de longévité de députés qui ont été élus sans interruption, il faut le dire.
Oui.
Éric Kerr, François Bonnardel et Pascal Bérubé qui sont élus depuis 18 Kerr. Ans. Oui!
J'aurais jamais pensé ça!
C'est un doyen.
Éric, t'as fait 18 ans.
Mais François Legault, que t'as nommé juste avant, a été élu pour la première fois en 1998. C'est le vrai, vrai, vrai doyen. C'est juste qu'il y a eu interruption pendant quelques années. Il a quitté la politique.
Il est revenu. C'est pour ça.
Et sinon, ben, il y a quelques années, quand j'étais encore à l'Assemblée nationale, François Gendron, député d'Abitibi, West, qui a été pendant longtemps le doyen, qui a pris sa retraite en 2018. Mais oui, à Ottawa, Louis Plamondon, 82 ans, devient le député qui a siégé le plus grand nombre de jours consécutifs à la Chambre des communes de l'histoire de la Confédération. Il bat Wilfrid Laurier, qui a été premier ministre du Canada.
Et il va peut-être participer à un autre référendum si le PQ est élu. Donc, félicitations, M. Louis Plamondon, pour sa longévitude à 82 ans. C'est un peu triste, par exemple, il expliquait qu'il est très seul à l'heure actuelle. Sa femme est décédée, malheureusement. Puis il dit, j'ai tellement donné en politique que j'ai plus vraiment d'amis proches.
Ben oui,
parce connais que... plein de monde. Mais je suis même pas capable de me trouver quelqu'un pour aller prendre un café.
Tu connais plein de monde. Quand t'es en politique, là, t'as beaucoup de connaissances.
Ouais.
Mais c'est fou comment la politique absorbe tout. Puis j'en parlais avec des anciens de cabinet d'autres partis cette semaine, justement. Puis ils me disaient, tu sais, quand je suis partie, c'est un ancien de Québec solidaire qui me disait, quand je suis partie, j'ai pris congé, tu sais, pendant quelques mois, on a une prime de séparation, fait que tu peux comme réfléchir au reste de ta vie un petit peu avant de te relancer dans autre chose. Puis il disait c'était pour moi une tellement grande adaptation parce que en politique, tout est régi par le rythme politique. Donc, tu t'ouvres les yeux à 5 heures du matin, tu sais ce que tu as à faire, on travaille tous un peu dans la même direction. Même ta vie sociale, c'est ton équipe. Souvent, on va finir de travailler, on va sortir ensemble, on néglige nos amis. On rappelle nos amis et notre famille à la fin de la session parlementaire. C'est ça, la vie politique. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que, imagine quand ça fait, combien on a dit, 15 000 jours consécutifs que tu es député. Tu sais, moi, j'ai été sur la colline parlementaire une dizaine d'années, puis c'est toute une adaptation quand tu ressors de là. Puis c'est vrai que t'as perdu des amis.
Mm-hmm.
Des amitiés que t'as pas entretenues. Donc,
ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça, ces horaires-là.
Non.
C'est tellement...
Personne ne comprend.
Ah ouais, hein?
Pour vrai, personne ne comprend. Puis le nombre
Sauf
de couples...
si t'as eu les pieds dans la politique.
Oui, puis même quand t'es plus là, puis t'es sevré, là... C'est tu sais, moi, je fais souvent l'analogie de ce que c'est de la drogue, la politique.
Ben, Louis Plamondon, il dit ça.
Ben,
il dit, moi, il y en a qui consomment des drogues, il y en a qui consomment du sport, moi, je consomme de la politique.
Ben, il y a quelqu'un que je connais qui, récemment, est devenu un peu, sous-ministre, là, dans une équipe politique, puis il conseille, puis c'est la première fois qu'il avait les pieds là-dedans, parce que son métier, ce pourquoi il a étudié, l'a amené à être dans un cabinet. Ça fait pas 6 mois que déjà, tu vois à quel point la personne, elle est allumée par ça. Ça va être difficile de se voir ailleurs que dans ça.
Puis t'es pas sur le même beat. Je m'excuse, mais si, mettons, là, j'étais addict, on va dire n'importe quoi, là, à la cocaïne.
Oui.
Puis mon mode de vie tourne autour de ça. Ouais. Là, je me tiens avec du monde. Le monde qui sont pas là-dedans, il y a comme un disconnect, pour vrai. Puis tu sais, ça a l'air full négatif, mais c'est vrai que la politique, c'est le fun, mais c'est aussi brûlant là, dans la vie, là, puis très, très fatigant. Puis tout tourne autour de ça. Fait que oui, tu perds des amis. Il y en a qui vont rester, là, évidemment, là, puis qui vont comprendre, surtout ceux qui aiment ça, la politique. Parce que quand vraiment t'aimes pas ça en plus, le fossé qui peut s'installer avec tes amis.
Ben oui. Parce que toi, tu fais juste jaser de ça, t'en manges, t'es passionné.
Mais je sais pas si en sortant de là, ça te tente tant que ça. Ça te tente-tu tant que ça? Pour la majorité des gens que t'as connus, est-ce que c'est.
Hey, d'en parler, tu veux dire?
Ouais, ou... quand t'es pas avec des gens de politique, par exemple, là, ça te fait-tu du bien d'avoir
ça dépend de ta personnalité. Moi, je suis une personne qui. Je suis très empathique dans la vie. Fait que, tu sais, je veux jamais imposer mes affaires, puis je ressens la pièce beaucoup. Fait que quand je vois qu'il y a des gens que. Puis je m'intéresse à énormément d'autres choses. Moi, tu sais, je veux dire, t'es camionneur, je t'intéressais, tu vas où, t'as voyagé combien de kilomètres, waouh. Tu sais, tout m'intéresse dans la vie. Fait que non, je suis pas une personne qui parlait tout le temps de politique. Mais je te dirais que c'est assez rare les gens qui ont travaillé en politique, puis qu'ils sortent de politique, puis ils veulent plus entendre parler de leur vie. Là. D'habitude, non, c'est une passion que t'as, puis qui va rester en filigrane.
Tu sais quoi, on va passer d'une passionnée de politique à un passionné de politique? Parce que c'était le caucus avec Antonine Iaccarini, un moment du lundi au jeudi à midi, qui est toujours très, très, très apprécié à l'émission d'En Jase. Et là, c'est Lambert Drainville qui est à Québec, qui va venir s'asseoir sur ta chaise, Antonine. J'y ai parlé tantôt au téléphone. Il est craqué, Lambert.
Ah ouais?
Ah, il a pas aimé les sorties de Magali Picard hier. Il a pas aimé ce qu'elle a dit. Donc, ceux qui aiment pas les syndicats, restez à l'écoute. Ceux qui les aiment, restez à l'écoute aussi, vous pourrez
pour
les
vous
défendre.
Choquer.
Oui, pour vous choquer. Vous pourrez les défendre au 418-971-1021. Et avant Lambert, Pascal, je propose qu'on fasse une couple de petites manchettes lorsqu'on reviendra de la pause pour savoir ce qui se passe. Hey, 24,4% de taxes commerciales peut-être à Lévis.
Oui, c'est ce qu'on suggère dans le budget 2026. Monsieur Blainé qui rentre en force.
Oui, mais c'est un petit cadeau de Gilles Laulier, ça. Il a laissé un trou de 13,6 millions.
Oui.
Un fun, cadeau. Ça. Oui, un petit cadeau caché.
Puis l'affaire, c'est que Monsieur Blainé avait fait sa campagne sur le fait qu'on n'aura pas de hausse de taxes. Alors, il est pris avec je dirais un cadeau empoisonné.
Il y a les deux mains comme ça. Ben attaché. Restez avec nous à Boulevard 102, c'est l'émission d'En Jase. Lambert Drainville après cette courte pause.